Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez, ou quoi que vous fassiez, faites-le tout pour la gloire de Dieu. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dont l'allégresse, oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Amen.
Voilà, on change un peu le culte aujourd'hui, puisqu'on va prendre le temps de méditation, le temps de prédication maintenant, et puis on va répondre ensuite par la louange dans notre deuxième partie. Vous le voyez apparaître, on a appelé cette parole, bon, on a vu au mois d'octobre, fête de la réforme, les grands fondements, les grands piliers de ce grand renouveau spirituel qu'a été la réforme, la gloire, enfin la grâce de Dieu seul, la parole seule. Donc je ne vais pas rappeler tout ça, on aura l'occasion probablement dans la prédication d'y faire référence. Le dernier, on va revenir fin du mois, je demandais à Aristo, puisque lors des baptêmes on a été très très vite sur Jésus-Christ seul, donc on va revenir un peu sur ce Solus Christus fin du mois. On oublie souvent le cinquième qui, quelque part, récapitule, condense tous les autres. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, ça va peut-être soulager certains, je vais pas prêcher. En revoyant un peu les séries qu'on a pu faire dans l'église, je regardais les séries que j'avais fait sur célébrer la gloire de Dieu et je me disais, mais j'ai pas envie de reprendre cela. J'ai presque, cette semaine, en méditant la gloire de Dieu, j'avais envie qu'on s'arrête et qu'on se laisse émerveiller, nous laisser impacter par la gloire de Dieu. Et donc oui, je vais partager quelques réflexions, mais ce que je voudrais surtout, c'est que nous nous placions sous la gloire de Dieu. Bien sûr, c'est un objet d'étude, c'est un objet de méditation, mais c'est bien plus que cela pour nous, c'est une réalité, c'est un mode de vie. Et je voudrais juste, quelque part, je me rends compte que peut-être nous ne réfléchissons pas suffisamment, nous ne laissons pas nos vies suffisamment envahir par cette réalité de la gloire de Dieu. Alors, si vous prenez des notes, peut-être tout ça sera vraiment incomplet, mais c'est pas ça que je voudrais faire. Je voudrais d'abord nous laisser impacter par la gloire même de Dieu. Donc je voudrais dire certaines choses sur le sujet. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Vous savez que Jean-Sébastien Bach, ce grand musicien chrétien, signait toutes ses compositions par SDG. À Dieu seul soit la gloire. Oh, le cantique le plus connu dans les milieux protestants de Handel. À toi la gloire, à toi la gloire. Bon, pour ceux qui ont fréquenté de vieux temples protestants, il y avait cette habitude d'écrire sur les murs. C'était pas des tags, hein, c'était des calligraphies, de belles choses. Bon, qui n'ont plus trop cours aujourd'hui. Il y avait souvent des inscriptions, des versets. Mais très souvent, je sais que moi, dans le temple, à 13 ans, à 13, 14 ans que je suis arrivé, j'étais étonné, je me souviens, il était mis « Gloire à Dieu ». Que je suis arrivé, je dis « Gloire à Dieu ». Vous voyez, quand vous n'avez aucun bagage comme ça, vous dites, C'est une phrase un peu étonnante. Et je comprenais pas trop bien. Oui, gloire à Dieu. Enfin, moi, je venais de, hein, peut-être le samedi soir, j'avais été voir gloire à Renzenbrink. Hein. Bon, mesdames, vous ne connaissez pas, mais gloire à Dieu. J'ai l'impression que oui, ça c'est un chouette langage religieux, ça. Gloire à Dieu. Et peut-être aujourd'hui, en réfléchissant à ça, je me dis. Combien c'est souvent une expression utilisée parfois à tort et à travers, hein. Il y a de vieux chrétiens, tous les trois mots, oh, et gloire à Dieu, et gloire à Dieu, et gloire à Dieu. Moi, je vous cache pas que parfois ça pas d'impact, quoi. Je veux dire, et pourtant, quand vous lisez les Écritures, j'ai pris un panel de quelques textes, les chroniques en parlaient déjà, mais c'est quelque part, c'est le cœur même de l'Écriture, la gloire de Dieu. Et c'est vrai, pourtant, on se dit, oui, ok, bon sujet de dissertation. Donc je voudrais, ce matin, je voudrais laisser la place à la gloire de Dieu dans nos vies. Je pense que c'est le secret pour nos vies. Je voudrais que sa gloire puisse venir, c'est nos prières viennent se manifester. Alors je voudrais peut-être juste nous proposer six courtes affirmations, et je m'arrêterai plus sur la dernière, la dernière sera plutôt, mais comment vivre ça au quotidien, cette gloire-là, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce que ça doit avoir comme effet? Premièrement, la Bible démarre en disant « au commencement Dieu ». Au commencement Dieu. Alors parfois on lit mal en disant, ah oui, donc Dieu a un commencement. Non, au commencement de la création, Dieu était là. Dieu a toujours été là, puis il y a eu un commencement quand Dieu a commencé à créer. Mais je voudrais nous dire que avant ce commencement, on ne va pas se battre sur les millions d'années de la Terre, c'est pas l'objet de notre réflexion. Je voudrais nous dire que avant que notre petite Terre, notre univers existe, il y avait Dieu. J'ai envie de dire... Avant le commencement, il y avait la gloire. Il y avait la gloire de Dieu de toute éternité. Dieu était là. Il ne s'embêtait pas. Il était éclatant. Quand la Bible parle de la gloire, mes amis, il faut vraiment qu'on balaye devant nos portes parce que on réduit tellement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un mot qui est là pour nous faire comprendre. C'est juste un petit mot qui essaye de nous faire comprendre dans notre langage. Une réalité, c'est la plus incroyable. Un petit mot, on s'exprime avec des mots, hein, inévitablement. Mais ce petit mot est en train de me décrire une réalité incroyable. La gloire de Dieu, on pourrait dire, en hébreu comme en grec, mais particulièrement en hébreu, c'est le poids de Dieu. L'éclat de Dieu, son rayonnement insoutenable. Retenez ça, la gloire de Dieu... On peut comprendre un tout petit peu, un tout petit peu, hein, mes amis. Je pense qu'au fin fond de l'éternité, on aura compris un tout petit peu ce que c'est la gloire de Dieu. C'est son éclat étincelant, irrésistible. Nous ne pouvons pas résister devant la gloire, la merveille de Dieu. Avant la création, il y avait sa présence qui était là. Suffisante, éclatante. C'est sa perfection dans tous les domaines, dans tous les domaines. Son amour était éclatant, sa justice, sa sainteté. Ça, c'est la gloire de Dieu. D'ailleurs, pour nous faire comprendre ce que c'est, la Bible utilise parfois des images pour qu'on comprenne. Et l'image souvent la plus utilisée, c'est un feu dévorant, qui éblouit, qui aveugle, qui inspire la crainte, le respect, l'adoration. La Bible dit que même une fois créé et pas touché par le péché, Dieu a dû réduire sa gloire pour approcher l'être humain, sinon on fondait. Tellement la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable, mes amis. Ah, alors, on s'est habitué, on voit ça sur les murs, hein, mais c'est l'affirmation la plus incroyable. Au commencement, il y avait... La merveille de Dieu. Moi, j'ai presque envie de rester sur cela en boucle en disant, mes amis, nous appartenons à un Dieu inimaginable. Éclatant, étincelant, parfait, tellement pesant quand il parle. Pour comprendre un tout petit peu ce que c'est, les auteurs bibliques disent, oh, c'est comme les grandes eaux. C'est inimaginable, la gloire de Dieu. Inimaginable. tout ce qu'il est, vraiment, tout ce qu'il est, c'est glorieux, c'est éclatant, c'est inimaginable. Combien je dis, notre vision de Dieu doit changer. T'es déjà rien que là, on peut dire, mais oh Seigneur, je suis tellement en train de te réduire, tellement en train de te réduire. Tu es pourtant un Dieu éclatant, étincelant, tellement merveilleux. Tout rayonne autour de toi. Deuxièmement, au commencement, Dieu créa. Cet être infiniment glorieux, étincelant, tellement pesant, le poids de son être. Il a décidé à un certain moment de partager cette gloire. C'est pas quelque chose de distinct de sa personne, hein. Il se dit pas, ok, là est ma gloire, puis bon, là je vais créer dans mon petit, dans mon atelier, on va essayer de faire un truc qui fonctionne. Non, non. C'est cet être infiniment glorieux qui met ses mains dans l'argile, c'est une image, qui commence à dire, ok, je vais faire ça, il est tellement glorieux, il dit, et ça se fait, hein. Tu t'imagines, nous on dit. Voilà, c'est tout, hein. On dit rien. Oui, parce qu'il ne se fait rien, hein. Mais Dieu dit, et c'est la gloire qui se manifeste, relisez en boucle, Genèse 1 et 2, Dieu dit que l'univers soit créé, et c'est un champ de gloire, les étoiles qui explosent partout. Et puis il prend une planète, il dit, ok, je vais créer, je fais les mers, je fais l'atmosphère, je fais les nuages, le soleil est là, je vais créer des plantes, des arbres, je vais faire des poissons, des crustacés, je vais faire des animaux, petits, grands. Tout est en train de hurler la gloire de Dieu. On s'imagine, mais nous on marche, hein, pff, oh, allez, pas de soucis, allez, on est dans un corps, j'ai pas encore parlé de l'être humain, je vais parler juste après. On voit des choses inimaginables, on est tellement habitué, mais ça... Ça hurle la gloire, tout ça, mes amis. Ça hurle la gloire. Si vous êtes doué comme moi, vous faites la plasticine en son temps, hein. C'est beau, hein. Pas de forme que je... Mais Dieu fait, et c'est incroyable. J'entendais dernièrement, il y a 500 sortes de tomates différentes. Plus? 1500, c'était pas une bonne émission, là. 1500! Seigneur, moi, avec 2-3 sortes de tomates, c'est bon, hein, en salade, ça passe, hein. Non, partout, mes amis, tu vois un papillon, il vit quelques jours, mais c'est inimaginable. Tu vois un oiseau, toi qui es obligé de marcher tous les jours, hein, et tu le vois voler. Mais tout hurle la gloire. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu touche, tout ce que Dieu fait, c'est glorieux. Dernier jour de la création, il crée l'être humain. La Bible nous dit que ça, c'est le sommet de la gloire. C'est pour nous seuls. Il dit, ouais, je mets mon empreinte là. Ils sont pratiquement comme moi. Ce sont mes représentants. Si vous regardez, et quand on voit Adam et Ève, les animaux devaient dire, mais c'est Dieu ça, ou c'est les hommes. Tellement proche, tout ce que Dieu fait est impacté par sa gloire. Au commencement, Dieu créa avec gloire. Il ne peut en être autrement. Dieu ne peut pas faire Dieu ne fait pas dans la seconde main. Il n'y a pas un eBay sur le ciel, hein. Tout ce que Dieu fait, c'est inimaginable de gloire. Ça, c'est notre Dieu. J'avance, parce qu'il y a Genèse 3. Hein, souvent, hein, c'est la chute, la rupture, je parle plutôt d'une rupture. Souvent, nous, on se dit à ce moment-là, ah oui, là, vraiment, la gloire, ça, c'est maintenant, c'est mis de côté. En réfléchissant à ça cette semaine, pour nous aider à comprendre, je vais prendre une image. Nous sommes sur la terre, et nous regardons, journée bien dégagée, nous regardons le ciel. 150 millions de kilomètres d'espace, hein, c'est quand même une belle petite distance. Imagine un peu une petite mouche, une réfugiée, qui passe devant le soleil, 2-3 kilomètres, imaginons, elle peut passer devant le soleil. Elle passe devant le soleil. D'ici, tu ne vois rien, bien sûr. Tu vois l'éclat du... Vous savez, Genèse 3, c'est une petite mouche qui passe devant le soleil. Ce n'est pas un problème pour Dieu, ça. C'est pas que sa gloire, à ce moment-là, elle s'éteint, où il y a vraiment quelque chose qui fait que, oh, Dieu n'est plus Dieu, ça dérape. Je veux dire, pour Dieu, c'est rien du tout, ça. On parlera après des dégâts, parce que ça nous abîme, nous. Mais pas Dieu. La gloire de Dieu, elle reste la même. C'est une petite mouche qui est passée, ok, qui a des effets pour nous sur la terre, parce qu'on a fait tellement de bêtises. Mais la gloire de Dieu n'est ombragée par quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il fait gris que Dieu ce matin était, oh là là là, était vraiment découragé. Dieu est un être infiniment glorieux tout le temps. Il y a pas d'ombre à sa gloire. Nous sommes abîmés par cette mouche, mais pas lui. Quatrièmement, dans sa gloire, Dieu dit, ok, cette terre était abîmée. Cette terre qui reste pourtant tellement marquée par la gloire. Tout est tellement en vie, tu peux mettre n'importe quoi pratiquement dans ton jardin, ça pousse tellement, il y a encore des traces de gloire et de vie partout. Dieu dit, je vais sauver les hommes. C'est une mauvaise manière de parler, ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais continuer à les impacter de ma gloire. Vous savez, l'histoire du salut, c'est l'histoire de la gloire de Dieu qui se manifeste. Tout est gloire. Quand tu lis l'Écriture, la vraie clé de lecture, c'est la gloire de Dieu. Regardez, il y a des moments où Dieu veut se retenir. Hein. Bon, je commence avec Moïse, mais on pourrait prendre avec Abraham. Ok, Moïse, monte sur la montagne et on va faire quelque chose pour sauver l'humanité. Dieu dit, je vais descendre sur la pointe des pieds parce que sinon vous n'allez pas résister. Mais même là, c'était incroyable. La gloire de Dieu qui était là, Israël dit, ok Moïse, vas-y parce que nous, on peut pas résister. La terre tremblait, ça fumait de partout. On construit un temple à Jérusalem avec Salomon. Dieu dit, ok, je viens. Ils savent plus rentrer dans le temple. Il y a une telle présence, il y a une telle nuée de gloire. Des prophètes de l'Ancien Testament ont vu un tout petit peu la gloire de Dieu. Ils tombent comme morts. L'histoire du salut, c'est pas du raccroc, non, c'est une histoire incroyable de gloire. Dieu vient et rétablit les choses sur cette petite planète, parce qu'une mouche était passée. Mais il dit, ok, je vais quand même continuer à œuvrer de manière glorieuse. Plus encore, il va venir lui-même. Il va se donner un corps. Vous voyez combien il a dû enfermer sa gloire. Mais c'était quand même sa gloire, hein. Dans un embryon. Il a déposé ça dans le corps de Marie, mais c'était la gloire. Jean dira, nous avons vu sa gloire. Il parle de Jésus. On l'a vu, on l'a entendu, on l'a touché. Pierre, qui a été profondément marqué par l'épisode de la transfiguration, quand Jésus a montré un tout petit peu de sa gloire, relisez dans 2 Pierre, il dit, nous avons vu sa majesté. Nous avons entendu sa voix. Il était... La gloire de Dieu s'est manifestée par des miracles. C'était la gloire de Dieu. L'histoire du salut, mes amis, c'est une histoire de gloire. Et on va pas rentrer après dans une salle d'attente bien meublée. Non. Vous savez, après ce petit passage sur terre, nous rentrons dans la présence éclatante de Dieu. On peut passer. Tous les mots sont trop courts. Ah, je sais que les enfants vous ont certainement posé la question. On va pas s'ennuyer au ciel? Est-ce qu'il y aura des Barbies? Est-ce qu'on va chanter tout le temps au ciel? Ouais, je pense parce que ils comprenaient pas, mais nous comprenons. Nos réponses souvent n'étaient pas très très bonnes parce que nous ne comprenons pas l'éclat incroyable de la gloire de Dieu. On va pas du tout s'embêter. Ça va être cuisant, grisant. Tellement ça sera éclatant de gloire. L'histoire du salut, mes amis, c'est une histoire de gloire. Moi, j'aime ce texte dans 2 Corinthiens chapitre... Il commence au chapitre 3 et dit, mais le ministère de l'Ancien Testament, il dit le ministère de la condamnation, c'était déjà glorieux. Avec Moïse et la présence de Dieu, c'était... Mais il dit, mais ce n'est rien par rapport au ministère de la Nouvelle Alliance, de l'Esprit, qui est beaucoup plus glorieux. Il dit, mais... Au regard de la gloire, l'Ancien Testament, c'était rien. L'histoire de notre salut, mes amis, c'est pas quelque chose d'un peu misérable, c'est inimaginable C'est rempli de gloire, rempli de gloire. Cinquièmement, ton histoire, ton salut, c'est une histoire de gloire aussi. Quand Jésus naît, les anges ont dit, écoute, nous, on n'en peut plus, on redescend sur terre, on va chanter. Et ils chantent la gloire de Dieu. Gloire à Dieu! Parce que le salut était en route. Je voudrais vraiment nous dire que devenir chrétien, bien sûr, l'homme était toujours dans le rayonnement de la gloire de Dieu, mais parce que Dieu a accepté que nous en sortions un peu à cause du péché. Ok. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, j'ai envie de dire, comprends bien l'expression, il te place de nouveau sous la rampe de sa gloire. Tu rentres de nouveau dans l'espace. Tu es de nouveau, nous sommes de nouveau admis dans la gloire de Dieu, dans ce projet, dans cette vie. J'aimerais vraiment nous rendre conscients de ça. Parfois les gens disent, oh, le chrétien c'est un petit misérable, hein, ils ont dû demander pardon, Dieu est leur béquille. Mais ils sont fous ces gens. Nous rentrons dans le projet initial, nous rentrons dans la gloire de Dieu. Mon ami, ta vie elle est impactée par la gloire. L'église, c'est un lieu de gloire. Alors, on verra tout à l'heure que on doit progresser très certainement. Mais je voudrais, c'est Pierre et Paul qui disent, nous avons été rendus participants de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous participons déjà maintenant à la gloire de Dieu. Paul dit même, nous sommes devenus le temple de Dieu. Vous savez, ce fameux temple où ils pouvaient pas rentrer parce que la nuit était tellement forte. Mais c'est ça devenir chrétien, mes amis. C'est pas juste signer une carte ou... Mais non, c'est revenir. Vous comprenez, parce que je dis, sous le spot de la gloire de Dieu, mais qui remplit l'univers. Ça, c'est ça devenir croyant. Notre vie, c'est une histoire de gloire. Elle est là. Tout ce que nous croyons, on ne devrait pas parler de doctrine ou de dogme. On devrait parler d'éclat de gloire. Tout ce que nous croyons en christologie, la vérité sur Jésus, ce sont des vérités glorieuses. Tout ce que nous croyons en sotériologie, pour prendre plusieurs expressions comme ça de la théologie, mais liées, tout ce que nous croyons sur le Saint-Esprit, sur le Père, sur la fin du monde, sur l'Église, sur l'homme, la missiologie, le monde des anges, des démons, tout ça, ce sont des éclats de gloire. Nous sommes en train de décrire et nous croyons, nous fondons nos vies sur la personne la plus incroyable, qui remplit toute chose, tout dans l'univers, tout sur cette terre, tout en toi, c'est le résultat de son vouloir, de sa gloire. C'est ça que nous croyons. C'est pas des dogmes embêtants. Ce sont chaque fois des rayons même de sa gloire. Notre vie, mes amis, c'est une histoire de gloire. Même si, ok, cette planète s'est révoltée, ils ont gardé la maîtrise, on a été impacté par cette révolte, mais maintenant, quelque part, on est revenu dans la gloire. Je pense qu'il y avait une série Amour, gloire et beauté, non? Oui? Mais quelle culture ici. Mais ça, c'est la Bible, la gloire. Arrête d'avoir un regard tellement misérable. Ta vie est revenue dans le sillon, dans l'éclat, dans la pesanteur de la gloire de Dieu. Et puis je termine. Nous sommes appelés maintenant à une marche quotidienne dans la gloire. C'est la vie chrétienne. On ne dissocie pas, oh Dieu est comme ça. Et puis nous, tant qu'on est là, non. La vie de l'homme, la vie chrétienne, c'est une marche quotidienne dans la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et je voudrais terminer avec quatre indicatif, il faut d'abord que nous prenions conscience de la gloire de Dieu. Je pense que combien c'est important. Arrêtons-nous et prenons conscience de cette réalité. Et je reviens à la réforme. Si vous lisez Calvin, je serai vous quand même avant votre départ, lisez l'institution chrétienne, hein, quand vous allez croiser Jean là-bas au ciel qui va nous dire « Qu'est-ce que tu as pensé de mon institution ?» Ce serait sympa que tu le lises. Toute l'architecture de son enseignement s'est structurée sur le thème de la gloire de Dieu. Et ça, c'était, j'ai presque envie de dire, une grande nouveauté, un bon regard sur la Bible. Tout gravite autour de la gloire de Dieu dans l'Écriture. Mais pas simplement dans l'Écriture, dans l'univers. Tout dépend de la gloire. Tout est le résultat de la gloire de Dieu. Et je dois prendre conscience de cela. Ma vie humaine, elle découle, elle est structurée par la gloire de Dieu. Ça peut pas être un sujet de prédication juste une fois de temps en temps pour vous rappeler, vous savez, le Dieu en qui on croit, c'est un Dieu glorieux. Non, non, toute la charpente de notre vie et de l'Église, c'est lié à l'être même de la gloire de Dieu. On le verra, notre réponse, elle est liée à la gloire de Dieu. On comprend que devenir chrétien, c'est une démarche vraiment radicale. Notre vie, notre pensée, nos échelles de valeurs, nos décisions doivent être réorientées en fonction de la gloire de Dieu. Et vraiment, cette semaine, waouh, cette pensée, j'ai dit, mais combien on doit décentrer nos vies pour qu'elle soit théocentrique, centrée sur Dieu, et pas anthropocentrique, liée sur nous, pour ne pas dire égocentrique. Si souvent, nous sommes au centre de l'univers. Et Dieu dit non. La vie de l'homme, elle ne se comprend que dans cet éclat de ma gloire. Vous êtes faits pour ça. Vous savez ça? Nous sommes faits pour vivre dans la gloire de Dieu. On n'est pas d'abord fait pour travailler, on n'est pas d'abord fait pour... On est fait pour répondre à la gloire de Dieu. Nous avons été fabriqués pour ça. Si tu découvres un objet que tu n'as jamais connu, tu ne connais pas l'utilité, on devra te le dire, cet objet est fait pour ceci ou pour cela. L'être humain, il est fait pour quoi? Pour communiquer, pour vivre, pour répondre à la gloire de Dieu. Mais on a vraiment besoin de prendre conscience de cela. Je me dis combien notre piété, nos raisonnements doivent être impactés par ça. Notre comportement au quotidien. Laisser la dimension de Dieu venir nous bousculer. Prendre conscience. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de qui tu es. De qui je suis. Ce qui donne mon identité, c'est ta gloire. C'est ta gloire. Je suis fait pour toi. Deuxièmement, je crois qu'on a besoin de changer de mentalité. Le problème, c'est que, je vous ai dit, cette mouche, elle nous a piqué, et donc on, parce que Dieu voulait nous épargner, il a pas manifesté sa gloire trop violemment, sinon on n'aurait pas résisté. Mais on a grandi avec une fausse mentalité, une mauvaise culture. La culture du moi, de mes plaisirs, la culture du fait que je vais répondre à tous mes besoins d'épanouissement, de bonheur, tout ça, en dehors de Dieu. Mais c'est un mensonge incroyable. Satan a déjà osé faire ça à Adam et Ève, alors qu'ils vivaient dans une communion parfaite avec Dieu. Il a osé mentir et ils ont cru. Donc vous voyez, parfois on s'imagine pas combien notre mentalité elle est vraiment faussée. Hier je parlais avec quelqu'un qui était un amoureux du Japon. Et il parlait du fait que il était surpris de voir combien la culture était vraiment différente. Chez nous, c'est place à l'individualisme. Il dit là, c'est la collectivité. L'individu n'a pas d'importance. C'est pour le groupe. Wow. Et d'ailleurs, de plus en plus maintenant, quand les Japonais viennent en Europe, ils doivent suivre une formation tellement pour eux le choc culturel. Et prenez un exemple. Dans les métros, au Japon, tous les GSM sont silencieux. Parce que on parle pas comme ça devant les gens, on ne s'exprime pas, et tout le monde est rangé en ligne, on se bouscule pas, on se vole pas, et des Japonais sont venus à Paris, dans les métros, et ils ont été vraiment choqués, parce qu'on se pousse, on parle, on crie, on vole. J'ai dit, mais c'est une autre planète. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens, parfois on est sur une autre planète. Hein. Notre mentalité doit vraiment changer. Au cœur de ma vie, c'est pas moi. Vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est la gloire de Dieu. Mais dans cette gloire, j'y trouve tout ce qui est nécessaire. Hein. Pour vous dire combien parfois on est vraiment à côté, hein. Il y a de nombreux livres dans le milieu évangélique où le problème c'est, ouais mais bon, attends, vivre pour la gloire de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas égoïste? Et je vous assure qu'il y a beaucoup de... Hein, quel type de Dieu pourrait lui demander qu'on le vante? Ça n'a rien compris. Que Dieu est infiniment glorieux et que notre vie c'est en lui. Et dans cette mouvance de gloire, nous trouvons tout. Nous trouvons tout, le bonheur, tout est là, dans la gloire de Dieu. Je vous laisse deux citations. Un de mes théologiens préférés, Tozer, il y a déjà une quarantaine d'années, disait ceci. L'Église a abandonné la notion élevée de Dieu qu'elle avait autrefois. Pour lui substituer un concept ignoble, indigne d'homme capable de réflexion et d'adoration. Elle a fait cela, oh non, pas de propos délibérés, mais peu à peu, sans s'en rendre compte. Et son inconscience rend sa situation d'autant plus tragique. Cette façon de concevoir Dieu presque universel parmi les chrétiens est la source d'une centaine de moindres mots partout au milieu de nous. Une philosophie nouvelle de la vie chrétienne est la conséquence de cette faille fondamentale dans notre pensée religieuse. On a gommé la gloire de Dieu et on dérape. Et puis, quelques décennies plus tard, Boyce, un autre théologien, disait ceci. La situation s'est-elle améliorée au cours de ces dernières décennies? Il me semble bien que non. Au contraire, notre obsession grandissante pour des banalités insignifiantes de la télévision, notre addiction au divertissement égocentrique et la mondanité de notre culture ne fait qu'aggraver la situation. Et le plus triste dans tout cela est le fait que la plupart des chrétiens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Je crois que notre Dieu est trop petit. Je crois que notre Dieu est trop petit. Nous ne souffrons pas de trop grands désirs pour Dieu, mais de trop petits désirs pour Dieu. Ça, c'est notre problème. Nous ne brûlons pas, nous ne sommes pas suffisamment sous le spot de sa gloire. Ça, c'est notre problème. Troisième et à ma dernière réflexion. On a besoin de se placer au centre de sa gloire. Toute notre vie, elle est là. Toute notre vie, elle est là. C'est pas comme si j'avais ma petite vie de famille, mon travail, et puis de temps en temps, là, dans ma chambre, le matin, et puis à l'église, je vais dans la gloire de Dieu. Non, non, non. Toute ma vie, elle se place dans la gironde de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, mais quoi que tu fasses, que tu manges, que tu bois, fais tout pour la gloire de Dieu. Notre vie, elle n'est jamais en dehors de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons illuminés et remplis de sa gloire et que notre vie soit une réponse. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est pourquoi la moindre petite chose doit être une réponse à la gloire de Dieu. Et là, c'est le cœur du message. Je vais terminer avec ça. Combien, vous voyez, tout dans notre vie est vraiment important. Combien tout pourrait être tellement différent. Est-ce que ma vie de mari peut être une réponse de la gloire de Dieu? Nous qui sommes en contact avec cet amour incroyable, est-ce que ma réponse va être aussi un amour incroyable? Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est pas un sujet de théologie seulement. Ça impacte nos vies. En tant que salariés, que travailleurs, est-ce que sommes d'accord de dire que nous qui sommes revenus au cœur de la gloire de Dieu, est-ce que je suis prêt à dire que ma vie là, dans l'atelier, à l'école, n'importe où, est une réponse à ce que je fais, c'est pour lui. Et c'est les autres qui en bénéficient. Ça, c'est la vie chrétienne. Je dis, que de problèmes disparaîtraient dans nos vies si on voyait ça comme ça. La gloire de Dieu. Vous imaginez ce que... Et on progresse. Hein, donc, ce que pourrait être l'Église. Une manifestation de la gloire de Dieu. Éphésiens 1, Paul répète comme un refrain, hein, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi célébrer la gloire de Dieu. Célébrer. Notre vie, c'est une célébration, c'est une réponse. Dieu nous a fait comme ça, avec une relation bipartite. Il nous impacte de sa gloire, il nous offre tellement de choses, et nous en retour, que nous mangions. Vous avez déjà mastiqué pour la gloire de Dieu? Digéré pour la gloire de Dieu. J'arrête l'image. Hein. Mais tout vivre, mais c'est ça la vie chrétienne. Tout vivre pour la gloire de Dieu. Waouh, conduire un bus pour la gloire de Dieu. Ça doit être génial. Non, mais j'ai... Ouais, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'est pas que le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est un peu peut-être la cerise sur le gâteau, la louange, le fruit des lèvres qui confesse. Mais c'est bien plus que ça. Ça servirait à quoi de chanter le dimanche et puis l'après-midi est tout sauf le reflet de la gloire de Dieu. Ça n'a pas de sens. Regardez ce que disent les prophètes. Les amis, j'ai pas besoin de vos taureaux, de vos parce que vous m'honorez des lèvres. C'est toute notre vie qui est maintenant broyé dans la gloire de Dieu, pris dans ce courant de la gloire de Dieu. Et si souvent on s'accroche là, hein, sur les aux racines qui passent, on dit « Oh non, je... » Le catéchisme de Westminster posait la question, première question du catéchisme, « Quel est le but principal de la vie de l'homme ?» Réponse, « Le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui le bonheur éternel. » Ça, c'est notre appel, quoi que nous fassions, tout pour la gloire de Dieu. Alors, je termine avec quatrième courte réflexion pour le vivre au quotidien. Je crois qu'il faut qu'on batailler. Hein? Tantôt, c'était une image de cette mouche. On sait que sur cette terre, on est en plein territoire ennemi. Attention, malgré tout, dans la gloire de Dieu. Mais il nous faut batailler. Parce que c'est vrai qu'on a pris de mauvaises habitudes. On est environné d'une culture qui n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est une culture de gloire. Alors il faut vraiment que on bataille pour ramener nos vies sans arrêt à la gloire de Dieu. Pour que tout lui soit offert. Jésus a dit... J'ai glorifié, Jean 17,4, j'ai glorifié ton nom sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai accompli ton œuvre. Il y a des œuvres que Dieu prépare qui vont le glorifier. Notre vie, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça ? On voit parfois les chrétiens tellement misérables. Mais tu étais racheté, tu étais pardonné, mais maintenant, tu es l'objet de l'attention de Dieu, tu es le vecteur de la gloire de Dieu. Il y a des endroits où il n'y a que toi qui passes, et c'est toi le rayon glorieux. C'est pourquoi, mes amis, faisons les bons choix dans nos vies. Refusons les compromis. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est nous amener à plus de gloire. C'est pas une contrainte, ah oui, je peux pas, mais non, c'est pas ça. C'est comme si on disait un peu, ah oui, le mariage, tu peux pas. Mais non! C'est oui, tu peux! Tu vis une vie de gloire avec l'autre! C'est ça la vie chrétienne. Et je dis non à toutes ces choses qui cherchent à éteindre la gloire de Dieu. Que de belles images, hélas, dans l'Ancien Testament, où on voit que Israël a profané le temple. Et on peut faire ça aussi. On y met plein de choses qui n'ont pas leur place. Et puis des rois se lèvent et ils purifient et la gloire de Dieu revient. Je pense qu'on doit batailler pour que tout dans nos vies soit à sa gloire. J'ai une dernière citation, une déclaration de Cambridge. C'était tout un document sur cette question. Elle a dit, Dieu n'existe pas pour satisfaire nos ambitions humaines. Dieu n'existe pas pour satisfaire nos ambitions humaines, nos convoitises, notre appétit de consommation, ni même nos intérêts spirituels personnels. Nous devrions de nouveau centrer notre adoration sur Dieu lui-même, plutôt que sur la satisfaction de nos besoins personnels. Dieu reste souverain dans l'adoration, et non pas nous. Nos soucis devraient concerner le royaume de Dieu et pas notre propre sphère, notre popularité ou notre succès. ta gloire, ton succès, tu l'auras là, dans la gloire de Dieu. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre appel. Romains 11, on l'a lu, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui était son conseiller? Qui était le premier à donner pour recevoir ensuite? Tout est de lui, dit Paul, tout! Tout est pour lui et tout est par lui. Mes amis, quel Dieu nous avons, quel Dieu! N'aie pas peur pour ta vie. N'aie pas peur. Tu es dans un magma de gloire. Et même si notre être extérieur se détruit, c'est bien, parce qu'on se rapproche alors d'un nouveau, glorieux. Vous savez ce qui était déterminant dans la vie de Paul? Un jour, il a visité le ciel. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu des choses. Ça a bouleversé sa vie. C'est pour ça qu'il était prêt à tout. Il avait vu quelque chose de la gloire. Mes amis, on n'a peut-être pas été au ciel, mais la gloire, elle est là. Elle est là en nous. Nourrissons-la. Quoi que tu fasses, tu enseignes les enfants, tu parles avec ton voisin, tout ça. Toi, tu es porteur de la gloire de Dieu. Tu es l'arche de Dieu. Les Philistins tremblaient parce que l'arche de l'Éternel arrivait. Parce que Dieu était là. Ouais. Peut-être, c'est vrai, au niveau humain, on ne vit pas toujours des situations faciles, mais on les vit avec la gloire de Dieu. Et on va amener la gloire de Dieu. Et même quand je quitte cette terre, mes amis, pleurez pas trop, hein. Parce que moi, je pleurerai pas, On partira ensemble. Ce sera la gloire. Il fallait pas prêcher aujourd'hui. C'est pas possible de prêcher sur la gloire de Dieu. C'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Quelque part, on devrait toujours parler de la gloire de Dieu. C'est la solution à nos vies, ça. Et l'adoration dans l'église, c'est pas juste, allez, on va satisfaire une petite divinité. Allez, 3-4 chants, pas plus, parce que, après, quand même, non. C'est la gloire. Levons-nous ensemble. Et on va prendre quelques chants. C'est vrai que, à cause de notre péché, enfin, la folie du péché, de dire non, j'ai pas besoin de toi, nous aurions mérité de ne pas revenir dans la présence glorieuse de notre Dieu. Mais c'est fait par Jésus. Le chemin de la gloire a été ouvert et nous voulons y demeurer. Et Seigneur, ensemble, une partie de ton église de cette région, nous sommes ici ce matin, en te disant, nous voulons vraiment une vie glorieuse. Oh Seigneur, pas comme le monde pourrait le dire, pas avec les paillettes, mais nous voulons, Seigneur, pouvoir quitter cette terre comme Jésus disait. J'ai glorifié ton nom, j'ai accompli toutes tes œuvres. J'ai vécu pour ton plaisir, pour ton honneur, pour ta joie. Si incroyable ça puisse paraître, tu prends de la joie quand je mange pour ta gloire, Seigneur. Quand je dors pour ta gloire, tu prends plaisir. Quand j'aime mes enfants, quand je suis honnête, tu prends plaisir, tout ça manifeste ta gloire. Je te prie, Seigneur, pour que toute notre vie, de plus en plus, manifeste l'éclat de ta perfection. Amen. On va prendre quelques chants. Et on va profiter aussi qu'il y ait une équipe de travaux. On va mettre une nouvelle enseigne. Oui, vous êtes prêts à ce qu'on mette ça? Église de la gloire. Méfiez-vous, ce sont des gens de gloire. Hein? On va le louer ensemble.